plus j'étais proche en fait des athlètes que j'ai pu guider, bah, plus ça m'aidait moi à me connaître et plus je me connaissais et plus j'avais envie de transmettre. C'est des vases communicants et presque sans fin parce que plus on connaît l'autre, plus on se connaît, mais plus on se connaît, bah, plus on essaie de s'améliorer, donc plus on se transforme et cette transformation, on essaie de la transmettre à l'autre et ça nous transforme à nouveau.
Bonjour et bienvenue à toi. Une fois par mois, je te propose de boire un verre avec une créatrice ou un créateur de liens inspirants. Je m'appelle Anne Paul, je suis coach professionnelle, animatrice et formatrice. Je travaille pour les secteurs du social et de la solidarité sur les thématiques d'accompagnement, de connaissance de soi, d'engagement et de pouvoir d'agir. Après avoir travaillé pendant 8 ans auprès des personnes à la rue à Paris, j'ai décidé de me former pour accompagner les professionnels et les bénévoles de ces secteurs. Ces personnes donnent tout, voire plus au service des autres, et je crée des outils pour les soutenir dans leur mission. Maintenant que j'ai différemment la tête dans le guidon, je prends le temps de réfléchir à quatre sujets qui me passionnent. L'être humain, la relation et les liens, l'engagement et la solidarité. Alors j'ai décidé de partager mes découvertes avec celles et ceux qui mettent la création de liens au cœur de leur vie. On va vérifier ensemble si, comme je le sens depuis toujours, la relation est vivante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous buvons un verre avec Derrick Condé. Derrick est coach en athlétisme, guide en e-sport et enseignant de PS. Nous allons parler ensemble de la connaissance de soi à travers l'autre et réciproquement, de donner et recevoir, d'estime de soi et d'apprentissage, et aussi de la construction de compétences et de pouvoir d'agir. Nous rencontrons un homme bien dans ses baskets, qui nous emmène dans les coulisses de l'entraînement sportif, de la compétition de haut niveau et de l'enseignement. Derrick est à la fois éducateur, guide, accompagnateur et enseignant. Nous l'accompagnons sur un stade, dans une salle de sport, pour construire des liens avec les autres et avec soi aussi. Bonsoir Derrick.
Bonsoir Anne.
Qu'est-ce que je te sers?
Alors je vais prendre un grand verre de jus de fruits de la passion.
Super. Je suis très contente de te recevoir ce soir parce que, en fait, dès que j'ai pensé à faire un podcast sur la création de liens et sur l'accompagnement, très rapidement, j'avais pensé à t'interviewer parce que dans ton activité, il y a cette question du lien qui est très forte et on va y revenir sur la relation que tu as à créer avec, quand tu étais guide en e-sport. Et j'ai toujours eu envie de t'entendre parler de cette relation qui est si particulière et en fait qu'on méconnaît. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours de vie.
Alors, comme tu as pu le dire, donc moi je suis enseignant de PS. Je pratique l'athlétisme très très longtemps, mais j'ai commencé autour de l'âge de 16 ans. J'ai pris goût à la compétition et pris goût aussi à la transmission, parce qu'il y a énormément de, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a structuré un petit peu dans mon mode de fonctionnement par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Ça m'a donné énormément confiance en moi. Et dans cette position de transmission, d'éducateur, d'une personne qui aidait, bah, je me suis révélé. J'ai adoré la relation que j'avais avec les autres. J'ai adoré le rapport humain. J'ai adoré les retours que les autres pouvaient me faire sur ce que je leur donnais. Et j'ai construit en fait ma vie autour de ce type de relation. Donc j'ai fait de l'athlétisme. Cet athlétisme m'a permis de choisir des études qui me permettaient d'être également en fait dans ce type de relation. Donc je suis enseignant de PS et dans le cadre des compétitions, je dirais de ma carrière d'athlète, j'ai rencontré des personnes non-voyantes qui faisaient partie de l'équipe de France en e-sport. J'ai eu un déclic, voilà. On m'a proposé une fois d'entraîner ce type, enfin d'entraîner des non-voyants. J'ai adoré l'échange que ça. Qu'il y avait avec cet athlète, j'ai adoré transmettre encore plus. C'était l'étape d'après. Du coup, là, j'étais dans la transmission et dans l'accompagnement. Et c'est une relation qui permet d'être. Je suis tellement sur l'autre que, à travers l'autre, je me regarde. C'est un petit peu une activité égocentrique, mais.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis tellement concentrée sur l'autre que je me regarde. Qu'est-ce que ça veut dire pour
C'est-à-dire que
toi?
le regard de l'autre aide à sa propre construction. Plus on est plongé dans le lien qui nous lie à une autre personne, plus on a une connaissance fine de ce que la personne est et plus on a une connaissance fine de ce qu'on procure chez la personne. Donc, plus j'étais proche en fait des athlètes que j'ai pu guider, bah, plus ça m'aidait moi à me connaître et plus je me connaissais et plus j'avais envie de transmettre. C'est des vases communicants et presque sans fin, parce que plus on connaît l'autre, plus on se connaît, mais plus on se connaît, bah, plus on essaie de s'améliorer, donc plus on se transforme, et cette transformation, on essaie de la transmettre à l'autre, et ça nous transforme à nouveau. Et voilà.
Ce que tu dis, c'est, ça touche, de ce que j'entends, ça touche évidemment l'être humain que tu es et que les personnes que tu as guidées sont, vraiment la dimension humaine, quoi. Mais j'imagine que dans... Oui, j'imagine qu'il y a aussi clairement une dimension du corps, du coup.
Oui. Alors, plus on est proche de l'autre, voilà, mieux on ressent toutes ces contractions musculaires, tout son mode de déplacement. Alors, il faut que je replace un petit peu le contexte pour que vous puissiez bien visualiser. Alors, un guide handisport, c'est une personne qui court à côté d'un athlète. Il est relié par la main, par un lien. Et
D'accord.
l'idée, c'est d'être dans la même foulée, dans les mêmes mouvements de bras, dans la même allure que l'athlète que l'on guide. Et à travers l'appui que l'athlète a au sol, à travers l'appui qu'on a au niveau des mains, au niveau de l'épaule, au niveau de l'avant-bras, on ressent tout ce que l'athlète ressent. Et l'idée, c'est d'être en symbiose réellement quand on court ensemble. Plus on est en symbiose, plus on est efficace, car plus on est économique. Dans ce type de relation, oui, il y a une relation au corps très très particulière, parce qu'on est à l'écoute des moindres réactions physiques de son, j'allais dire, de son négatif. C'est-à-dire vraiment l'athlète, c'est mon négatif. Il est à côté de moi, et il fait exactement ce que je fais. Et inversement, l'athlète non-voyant, il pourrait dire exactement la même chose de moi. Je suis son négatif et je fais la même chose que lui. Donc, être à l'écoute de son corps, de sa contraction musculaire, de son allure, même de la manière dont il respire, c'est être un peu aussi à l'écoute de soi-même.
Oui, c'est passionnant. Et donc, pour arriver à ça, il faut bien s'entendre. Où est-ce qu'on peut arriver à des performances quand il n'y a pas de lien, où il n'y a pas une relation de cœur à cœur, de tête à tête, enfin de corps à corps, on l'a compris, elle est nécessaire, mais si il manque l'un, il manque les autres, ou tu penses que ça...
Alors, au tout début, quand j'ai commencé en tant que guide, j'étais persuadé qu'il fallait être absolument en parfaite harmonie sur tous les plans avec l'athlète qu'on guidait. Avec l'expertise et l'ancienneté, j'ai réalisé que certaines personnes, certains guides qu'on a pu avoir n'étaient pas forcément dans ce mode d'interaction et qu'ils étaient uniquement sur les données purement physique, physiologique, sans entrer dans le relationnel. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour guider, pour amener l'athlète à un niveau de performance, mais sans plus. Voilà. Peut-être par retenue, peut-être par pudeur, mais sans plus. Alors, oui, c'est possible de guider, mais le type de performance qu'on obtient en étant purement guide, mais moi, ce que j'appelle guide spectateur, on est là pour amener à une performance, mais sans trop s'impliquer. Ben, ça a sa limite. La limite, c'est que on peut être en décalage sur les ressentis. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en phase avec la personne que l'on guide. Plus on est en phase avec elle, moins on est en décalage. Et moins on est en décalage, moins il y a d'accrocs, moins il y a de pertes d'énergie, plus c'est bénéfique pour le binôme. Donc oui, c'est possible, mais sur une courte durée. ça peut fonctionner sur une durée un peu plus longue, ça ne fonctionnera pas. Il y a
Mmh.
automatiquement un échange, même les plus timides, même ceux qui sont vraiment dans cette pudeur et qui refusent en fait de se laisser un peu à l'autre. Parce qu'il y a de ça. Quand on guide sur du handisport, on se laisse un peu à l'autre. On dit à l'athlète que l'on guide, voilà, je cours à côté de toi, donne-moi les informations de ta manière de courir, moi je te donne les miennes et on essaye à partir de ces informations de faire quelque chose de très très grand. Si jamais on n'est pas tout le temps dans ce mode-là, voilà, à un moment, il va avoir de la perte d'informations, de la perte d'efficacité, perte de repères qui peuvent être négatifs.
Donc, il faut forcément mouiller sa chemise, quoi. Enfin, son t-shirt, en tout cas, en l'occurrence.
Ah oui, là, enfin, quand mouiller sa chemise, on le fait tout le temps. C'est-à-dire qu'on soit, je dirais, guide spectateur ou guide un peu plus impliqué, on le fait. Il s'agit même bien plus que mouiller sa chemise, c'est accepter, en fait, de se laisser à l'autre. C'est un peu comme quand on va. C'est une vraie relation de confiance et il faut accepter, à un moment, d'être dans une espèce de déséquilibre, d'instabilité et que l'autre compense. En fait, c'est ça. Il faut accepter d'être dans cette instabilité que l'autre compense.
C'est incroyable, c'est presque spirituel.
Alors après, c'est nous, on le vit, mais on ne le vit pas de manière spirituelle, on le vit de manière tout à fait humaine, c'est de la relation, tout simplement. Réellement, finalement, il s'agit d'une belle relation humaine, d'accompagnement. On fait des choses, on essaie de bien les faire, on essaie de prendre du plaisir en les faisant. Ça se voit. Les performances sont là et le public s'intéresse à ce qu'on fait parce qu'on donne l'impression de le faire en toute normalité. Et c'est le cas. On est tout à fait normaux, il n'y a pas de calcul derrière tout cela, c'est simplement des athlètes de bon niveau, parce que voilà, on est au départ des athlètes de bon niveau, parce que on guide, enfin du moins, les athlètes que j'ai pu guider et entraîner faisaient partie des meilleurs mondiaux, et de ce fait, on est obligé d'avoir un certain niveau pour les guider, mais on est dans la normalité. C'est des profils d'athlètes. On aime courir, on aime la compétition et on veut sans doute un peu plus que la compétition, qui est également, c'est très enfermant, on est un peu tourné vers soi-même, ça va presque à l'opposé de ce qu'on fait là. Et quand on fait ça en compétition, on allie en fait ce qu'on aime, on fait de la compétition et donc un petit peu de la recherche de nous-mêmes à travers l'autre et on le fait en guidant, donc on est encore dans ce chemin-là.
J'entends que la question de la performance, elle est forcément présente, puisque enfin, elle est forcément, c'est un paramètre qui est permanent, puisque c'est de la compétition de haut niveau. Et la question que je me posais tout à l'heure en t'écoutant, je me disais, mais en fait, la victoire, c'est la victoire de cet athlète non-voyant. Enfin, qui est-ce qui court? C'est l'athlète Edéric Condé? Ou c'est enfin ou le guide ou au tableau des compétitions, il n'y a que l'athlète qui est
Non,
inscrit.
alors, au tableau des compétitions, il y a le nom de l'athlète et il y a son guide
D'accord.
qui suit. Sur les médailles, les deux sont médaillés, que ce soit l'athlète et le guide. Néanmoins, la performance est attribuée à l'athlète. Mais on précise toujours guidé par. Alors, après, c'est par rapport à l'athlétisme valide classique. L'athlétisme valide, bon, c'est vraiment des épreuves individuelles. Et même quand un athlète est entouré d'une équipe assez importante, un athlète professionnel qui est entouré de son entraîneur, peut-être d'un manager, peut-être de toute une structure en fait qui encadre sa performance, ça reste la victoire principalement de l'athlète. L'équipe est contente, mais ça reste principalement la victoire de l'athlète. Là, sur le handisport et sur le travail de guide, c'est vraiment une victoire partagée. C'est vraiment une victoire partagée. On est content que. Moi, je suis content. Là, mon athlète aujourd'hui courait une compétition qualificative pour les Paralympiques de Tokyo. Il était déjà qualifié, mais bon, ça, c'était une compétition qui permettait de nouveau se confronter au meilleur. Ben, il a remporté la victoire. J'étais très content. J'étais super content. Il a remporté la victoire avec un autre guide, c'est même pas moi, hein. Mais j'étais très content. Dire que j'ai, il a, c'est comme si j'avais gagné. Voilà. Et c'est pourquoi? Ben parce que quand il, je sais que comme quand je cours avec lui, ben, il y a un peu de, il a un peu de moi, de ma manière de penser, de ma manière d'être en lui, parce que c'est ça, j'ai dépeint sur lui, voilà, et lui aussi, il a dépeint un peu sur moi. Et du coup, quand lui gagne, je sais qu'il a emporté un peu de mes conseils, un peu de ce que je suis avec lui sur la ligne d'arrivée. Donc c'est toujours très très gratifiant. Donc ça,
Est-ce que tu
c'est
te sens est-ce que tu te sens courir quand tu sais que c'est l'heure de sa course? Est-ce que tu penses
Ah, alors,
pas du tout?
non, je n'irai pas jusque-là. Peut-être que certains guides arrivent à être enceintes de moi. Mais il est vrai que quand, sur certaines compétitions auxquelles j'assiste, je suis dans les tribunes et le départ est donné, au moment du départ, tous les athlètes font un peu le vide dans leur tête, essaient de se relâcher, essaient de repenser à un certain nombre de choses. Bah, je suis dans ce même état-là. C'est-à-dire qu'au moment du départ, je relâche, je me concentre, je suis dans un état de relâchement qui me permet de comprendre ce que l'athlète vit. Et quand ça part, quoi. La fréquence cardiaque aussi augmente un peu, mais non, ça, il faut que je le voie, il faut que je sois présent sur le stade. Autrement, non, quand même pas.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire des noms d'athlètes que tu accompagnes ou que tu as accompagnés, qu'on puisse aller se renseigner,
Alors,
regarder des vidéos ou je ne sais
ben
pas.
je vais n'en citer que deux. Parce que, alors, le premier athlète qui m'a fait rentrer un petit peu dans ce monde-là, il s'appelle Alajiba. Et le deuxième athlète, donc Timothée Adolphe. Voilà. Donc, c'est l'un des meilleurs mondiaux, Timothée Adolphe. Alajiba, à l'époque, était parmi les meilleurs mondiaux également. Donc, voilà, je reste un petit peu sur le même type de profil d'athlète.
C'est assez extraordinaire. C'est assez passionnant d'écouter ta passion. Tu as parlé aussi tout à l'heure de ton activité de professeur d'EPS. Et qu'est-ce que tu peux en dire de cette activité, justement, sous le regard de la relation, enfin de comment tu... Quel prof tu es, peut-être, on peut
Ouais.
dire ça comme ça.
Non, mais professeur de PS, alors pour moi, au départ, c'était. Alors, même si, dans l'absolu, je suis très content de ce que je fais, vu la considération de l'activité physique en France, c'est pas forcément l'activité physique la plus, qui est la plus mise en avant. Voilà, donc on a tous l'image de l'ancien de PS qui parle pas forcément au conseil de classe ou. Ou que les parents viennent voir en disant avec un certificat médical, ou ah non, mon fils, ben, il a de l'asthme, ben, il ne fait pas. Ah ben non, voilà. Et du coup, c'est bien souvent un enseignement qui passe au second plan. Moi, entrer dans ce corps de métier, c'était quelque chose de risqué. Pourquoi risqué? Parce que c'est accepter à un moment le jugement de la société, je ne vais pas dire ça, mais en fait, tout ce qui va avec l'amalgame lié à l'enseignement. Voilà. Et j'ai accepté. Pourquoi? Parce que la relation que j'avais avec mes élèves et dans la transmission était tellement plus forte que le regard de ce que enfin le regard la pression sociale. Bah, du coup je me suis lancé dans le métier en me disant bon c'est pas grave, au pire si jamais tu me sens pas dans quelques années tu pourras revenir à tes premières amours, à savoir les sciences. Et finalement quand j'ai commencé en tant qu'enseignant de PS, j'ai adoré sentir dans le regard des jeunes déjà le plaisir d'être dans une pratique épanouissante, le plaisir de progresser et le plaisir de comprendre leur corps. J'ai enseigné la gym avec avec le trampoline, enfin des choses qui leur paraissaient peut-être au départ très compliquées. Bon, j'ai une formation aussi un tout petit peu de gymnaste. Et quand je leur apprenais à réaliser sans danger les saltos avant et saltos arrière, et qu'à la fin d'un cycle, j'étais en mesure de leur dire, ben voilà, ce que vous avez appris là, vous ne pourrez jamais le perdre, en fait. Vous savez faire le salto avant, salto arrière. Alors pour vous, c'est rien, mais c'est beaucoup, beaucoup aux yeux des autres. Et retrouver quelques années plus tard des élèves à qui j'avais tenu ce discours, mais sur tout un tas d'activités, que j'ai pu tenir sur du saut en hauteur, que j'ai pu tenir sur du lancer de javelot, enfin, il y en a tellement, me dire, ah, vous vous rappelez, monsieur Ondé, ce que vous m'avez dit à ce moment-là? Ah, vraiment, ah, je m'en suis servi. Oh, ah, je me rappelle que j'ai eu mal à la cuisse, vous m'avez dit ça, de faire ça, ben, c'est parti. Et le recul maintenant sur les années, me fait rencontrer de plus en plus d'élèves que j'ai pu avoir, qui sont déjà très contents de me retrouver. Ça, déjà, c'est une fierté. Quand un enseignant, des anciens élèves viennent vous voir et qui ne font pas tout un détour pour vous éviter en pleine rue quand ils vous ont reconnu, c'est que vous avez laissé une espèce de marque indélébile de votre passage. Et en fait, ça rend tout de suite très, très fier. Ça remplit d'une énergie dingue. En fait, voilà, ça donne tellement d'énergie. Pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? Ça, c'est une source presque intarissable, en fait, d'énergie. Quand on donne à l'autre, et quand ce qu'on a donné est transformé, digéré, et ressorti, et qu'on le redonne d'une autre manière. Voilà. Non, c'est très, très gratifiant.
Oui. C'est deux activités qui sont très, enfin, c'est très généreux. Enfin, tu pratiques, j'ai l'impression que la générosité, ça fait vraiment partie de toi.
Oui, bah c'est sans doute un profil. Mais encore une fois, je suis généreux. Le point de départ, pour moi, c'est l'athlétisme. Déjà quelqu'un de sympathique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le fait d'être sur une activité comme l'athlétisme m'impose un rythme, une énergie, et qui m'impose d'aller dans mes retranchements, il y a aussi de ça. Sur les activités énergétiques, on ne peut pas se voiler la face. C'est-à-dire que quand on a un entraîneur qui vous dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, tu vas faire ça, et parce que je te connais, je sais que tu es capable de le faire à fond. Et en tant qu'athlète, on se dit, bon, voilà, on m'a dit de faire ça, on m'a dit que j'étais capable de le faire, ben je le fais à fond. Et qu'on le fait à fond, et qu'on est super fatigué, on est sur les genoux, les rotules, à moitié en train de dormir par terre, et que quelqu'un va vous dire, ce que tu as fait, c'est bien, tu as appris à te connaître, c'est formidable. Relâche-toi, demain on remet le couvert. Et de séance en séance, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses limites. Voir jusqu'où on peut supporter de la fatigue, jusqu'où on peut être capable d'avoir une débauche d'énergie importante. Ben, ça canalise énormément les choses. C'est-à-dire qu'on arrive face à quelqu'un et on se connaît tellement bien que on n'a pas peur d'être en contact avec lui. Et en fait, c'est comme ça que sans doute un profil de garçon sympathique est devenu un profil généreux. Pourquoi? Parce que j'avais appris à renforcer mon ego, appris à me connaître, appris à pas me laisser déstabiliser par l'énergie de l'autre, parce que j'avais confiance dans la mienne, que j'étais en mesure de jongler avec l'énergie des autres pour leur faire découvrir leur propre potentiel. Il y a quelque chose de ça. Pardon.
C'est vraiment très intéressant. Et du coup, tu peux parler aussi de ton activité d'entraîneur, parce que ça touche ça. Enfin, en tout cas, on parlait moins de PS que d'entraînement de sportif.
Ouais. Alors, sur la partie entraînement, alors sur ce que je viens de dire, on peut le mettre sur les deux. On peut le mettre sur le PS et sur l'entraînement. Ce qui va définir après, ce qui va transformer mon activité d'enseignant, d'éducateur, d'accompagnateur en activité d'enseignement, c'est la relation à l'évaluation, la relation à la progression par rapport au système éducatif. C'est-à-dire
Oui,
que voilà,
d'accord.
moi en EPS, je suis en mesure de dire à un élève, voici le niveau qu'il serait souhaitable d'avoir pour valider ta compétence, je vais essayer de t'y amener.
Mmh.
Il y a une notion de rythme d'apprentissage avec des étapes à passer. Ça, c'est la notion éducation nationale qui amène d'un point A à un point B avec une progression plus ou moins marquée et une progression balisée. L'activité entraînement est totalement différente, que ce soit avec des athlètes de haut niveau que des athlètes qui espèrent aller au haut niveau ou qui sont là pour du loisir. Quand on est sur les athlètes de haut niveau, il y a également ces étapes. Pourquoi? Parce que notre action est conditionnée par des résultats pour entrer dans les meilleures compétitions, pour être à la recherche du meilleur chronomètre, de la meilleure performance, pour réussir à gagner des titres. Voilà. Donc, encore une fois, cette relation, elle est conditionnée par un objectif assez régulier et qui transforme un petit peu notre interaction. Quand je suis en entraînement avec des athlètes loisirs ou qui veulent transformer du loisir en activité professionnelle, c'est pas la même démarche. C'est-à-dire que là, je suis dans une activité totalement, je dirais, détachée du résultat. Mon but, c'est d'être là pour les amener au plus haut niveau de ce qu'ils sont capables de faire, sans forcément avec d'objectifs dans le temps, mais avec l'énergie du moment. Je leur dis, voilà, voici l'énergie que vous avez disponible en ce moment, parce que vous avez fait ça aujourd'hui, parce que vous avez fait ça cette semaine, vous avez eu ça dans votre vie, etc., etc. Voici ce que je vous propose pour essayer soit de vous amener à avoir du plaisir sur l'activité, soit de vous amener à vous connaître, soit de vous amener à essayer d'approcher les limites de votre mode de fonctionnement qui vous permettront de les repousser ensuite pour devenir du haut niveau. Voilà. Mais c'est beaucoup plus libre, en fait, cette activité. Cette activité là, la plus épanouissante, parce que je ne suis contraint à rien. Je suis juste contraint d'accompagner, pas d'accompagner. C'est même pas une contrainte. J'amène juste mon énergie. Je leur propose mon énergie. Ils me laissent la leur. Et avec cet échange de bons procédés, on essaye de construire quelque chose où tout le monde se sent bien. Moi, bien dans l'accompagnement parce que je sens qu'ils prennent du plaisir dans la pratique. Et eux, bien parce qu'à la fin de la séance, il faut qu'ils se soient dit, ben, j'ai quand même progressé. J'ai progressé parce que j'ai fait ça, sans forcément avoir besoin de se fixer des objectifs, mais se dire, j'ai progressé, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de régler ça, ou ceci ou cela. Donc, ce n'est pas le même type d'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, quand il n'est pas conditionné par l'objectif de résultat, il est toujours plus facile. Quand il est conditionné par un objectif de résultat, bah, on doit faire des concessions. Voilà. Après, il faut être en mesure d'accepter ces concessions. Et bien évident que si jamais j'étais que sur du haut niveau, bah, mon profil, avec toutes les contraintes que ça implique, ben, mon profil, je sais pas, d'accompagnateur sympathique, ben, ça me manquerait sans doute un petit peu. Si jamais j'étais que sur du loisir, ben, mon profil compétiteur, ben, ça me manquerait aussi un petit peu. Donc voilà, avec l'étendue de toutes mes activités, l'amplitude de toutes mes activités, je me ressource également de cette manière-là. Voilà. Parce que je donne pas de la même manière, j'ai pas les mêmes retours et je me nourris en fait de tout ce que je peux donner de gauche à droite.
On dirait que dans chacune, en effet, t'as trois, dans chaque activité, il y a tes trois métiers qui se rencontrent, quoi. Le métier d'enseignant, le métier d'éducateur et le métier d'accompagnateur, tu l'as dit tout à l'heure. T'es les trois en même temps tout le temps. Et en fait, c'est plus ou moins, tu pioches plus ou moins dans l'autre en fonction de là où tu es.
C'est surtout aussi en fonction de l'énergie, parce que il y
D'accord.
a être également dans ce don. Là, il y a des moments où pour peu qu'on n'ait pas de retour pour X ou Y raison, on n'ait pas de retour pendant un certain temps, et il se peut aussi qu'on n'ait pas de retour, bah, on peut parfois être un peu vidé de son énergie. Mais du jour au lendemain, on a quelque chose qui nous fait plaisir, et d'un seul coup, voilà, c'est.
Oui, et toi l'énergie, on l'a un peu entendu, mais je te le demande comme ça pour vérifier, l'énergie, tu la puises beaucoup dans la reconnaissance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est je me trompe quand je dis ça, la reconnaissance de ce que les personnes que tu accompagnes ou tes élèves ou voilà te renvoient? Il y a ça?
Oui, là, en fait, l'idée de donner, je me rappelle avoir dit ça il y a quelques années, mais donner, enfin, moi, quand je donne, moi, j'ai dit, je crois, au début, c'est presque égocentrique. Parce que je sais que quand je vais donner, et parce que ce que je donne, bon, ça, je donne d'une manière à ce que j'ai un retour, c'est pas que je veuille le retour, c'est que je donne, je donne par pure empathie. Et que cette empathie, peut-être que les autres la ressentent. Donc, également par empathie, de leur part, ils me redonnent des choses. Et cet échange me permet de me sentir bien. Et c'est pour ça que je disais que c'était un peu égocentrique, parce que quand je me regarde dans le miroir, non pas que je le fasse souvent, mais quand je le regarde dans le miroir, j'ai l'impression, ben, en fait, que d'avoir fait du bien, et que d'avoir fait du bien, ça m'a fait du bien. C'est en ce sens, donc c'est peut-être mal dit, mais c'est vraiment, je suis dans une activité purement égocentrique, c'est-à-dire que je donne pour que ça me fasse du bien. Mais j'ai pas de, je fais pas de calcul pour donner. C'est comme ça que je suis.
Oui. Quand on commence l'année scolaire ou quand on commence un entraînement, enfin quand tu rencontres des gens pour la première fois, que dans toutes les activités que tu mènes, c'est quoi ton secret pour créer du lien, pour créer la relation?
Je peux pas, enfin, encore une fois, c'est compliqué d'avoir un regard sur soi, mais je pense pas vraiment avoir de secret. Encore une fois, c'est ma manière d'être. J'ai une position qui permet, ça c'est du fait de mon activité d'enseignant, je pense que avec le nombre d'années d'enseignement que j'ai derrière moi, j'arrive encore plus à prendre ce type de posture. J'ai une position suffisamment neutre et ouverte pour que n'importe quelle personne puisse entrer en interaction avec moi. C'est-à-dire que c'est pas forcément mon apparence, c'est plutôt la posture que j'adopte. Enfin, je vois au fur et à mesure des années que j'arrive à mettre très rapidement les élèves à l'aise, en situation de confiance. Et cette situation de confiance, je la pousse au plus loin de la relation que je peux avoir, que ce soit avec mes élèves ou avec mes athlètes. Voilà, je pars du principe que je leur dis, faites-moi confiance. Voilà, l'objectif est d'arriver à ce niveau-là. L'objectif est d'arriver à ça. Comme ce que je disais tout à l'heure sur le salto avant, l'apprentissage du salto avant, salto arrière, c'est exactement ce que je dis. Enfin, voilà, vous réalisez que le salto avant, le salto arrière, ce n'est qu'un geste technique. Je vais vous offrir la possibilité de le réaliser et je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour y arriver. Et je vous mets en situation de confiance parce que ce que j'installe en termes d'atelier vous permettra d'y réussir. Alors, au début, ils me font, oh non, mais n'importe quoi, il est fou ce prof. Premier atelier, je leur montre, il faut faire ça. Ah bon, il faut faire que ça? Ben oui, regarde. Et maintenant, de ça, tu vas évoluer, tu fais ça. Ah oui, c'est vrai. Et après, au bout du premier ou deuxième cours, petite pause, arrêt sur image, est-ce que vous réalisez que le premier cours, vous m'avez dit que personne ne tenterait le salto? Et là, vous êtes en autonomie sur les ateliers et vous le faites tous. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Et là, bah oui, c'est vrai, génial. Et voilà. Et on continue, c'est comme ça. Et j'ai un peu cette démarche sur tous les apprentissages que je mets en place. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de définir une espèce de stratégie par rapport à ce qu'on veut et de mettre des étapes dans cette stratégie. Alors, parfois, des étapes très, très accessibles qui permettent à l'autre de rapidement entrer en fait dans le même chemin que soi. Et après, les étapes un peu plus dures, mais comme il aura renforcé son ego, il aura renforcé son estime de soi sur un certain nombre d'étapes, il sera en mesure de les franchir. Et là, on est dans un rôle de guide, d'éducateur, d'accompagnateur à franchir les étapes qui sont un peu plus éloignées. Et après, de faire réaliser à l'autre, ben voici les étapes par lesquelles tu es passé. Et une fois que l'autre part, une fois que le l'autre, quand je parle de l'autre élève, athlète, a pris conscience des étapes par lesquelles il est passé. Il est juste ultra ravi, en fait. Il se dit, mais ouais, génial, bah, ça a marché. Ça a marché et non, c'est très gratifiant. J'ai des élèves qui m'ont. Enfin, j'ai eu une telle, et pourtant, j'avais pas forcé, je ne le réalisais pas forcément. Un tel impact sur leur vie à des moments où ils n'étaient pas forcément bien. Moi, je ne le réalisais pas encore une fois. C'est-à-dire que j'ai des athlètes qui arrivent, ils ne me racontent pas forcément leur vie, ce que je leur apporte leur fait du bien, ils repartent avec, etc. etc. Et après quelques années, ces personnes-là m'ont dit, bah, là, Derrick, bah, à ce moment-là, tu m'as aidé à faire ça. Je dis, bah, génial, quoi. Moi, je le faisais, ouais, mais ça m'a vraiment aidé, tu m'as donné les trucs, et ils ont trouvé des repères à travers ce que je pouvais leur donner sur les situations qu'ils pouvaient vivre. Mais il y a tellement de personnes qui tous les jours font ça. Il y en a tellement. Moi, je suis sans doute un peu plus mis en lumière. Pourquoi? Parce que le travail d'enseignant, c'est un peu un travail de comédien parfois. Donc, c'est plus facile d'avoir une image très, très positive de l'enseignant parce qu'il se met en scène devant les autres. Donc, on est tout, quand ça marche, la personne dit, ah ouais, lui, c'est, voilà. Alors qu'au quotidien, il y a sans doute des personnes qui font, il y en a des milliards, des personnes qui font des actes bien plus engageants que les miens et bien plus valorisants que les miens. Mais ils ne sont pas forcément mis en lumière parce qu'ils le font tout seuls de leur côté. Ils ne sont pas mis en scène comme je peux l'être moi en étant face à une trentaine d'élèves ou face aux caméras quand je suis avec les handisports. Voilà.
Ça m'intéresse que tu dis vraiment que tu mets en place les étapes du progrès, parce qu'il y a quelques jours, j'ai lu un article sur le pouvoir d'agir des personnes en situation de précarité. Et en fait, dans l'article, ils expliquaient qu'il y avait un vrai souci, c'était la culture de l'échec pour ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas appris et à qui on n'a pas dit qu'ils pouvaient réussir. Et aussi, notre façon de faire du travail social, elle peut parfois amener les personnes à être en échec parce que les étapes sont trop grandes, en fait. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est ce que tu dis, c'est que tu construis, tu vois la grande étape, mais tu construis les petites étapes pour arriver à la grande étape. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc que j'ai envie de garder. Qu'on peut finalement un grand effort le découper en plein de petits efforts, se féliciter sur chaque effort. Et j'ai une dernière question pour toi. La question, c'est quoi pour toi oser la relation?
Oser la relation, c'est accepter le déséquilibre que l'autre peut créer en nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je suis suffisamment en confiance avec ce que je suis pour que l'énergie de l'autre ne détruise pas ce que je suis ou ne mette pas en danger ce que je suis. C'est ça.
Waouh. Ok. Eh ben super, je te remercie beaucoup. Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à rebondir et à m'envoyer un petit message. Je suis intéressée de savoir ce qui t'a parlé et interpellé. Tu peux m'écrire à annepaul@osonslarelation.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux en savoir plus sur Osons la Relation, tu peux t'inscrire sur le site www.osonslarelation.com. Tu recevras deux fois par mois une invitation à faire une pause et à t'inspirer. Enfin, partage à qui tu le souhaites ce podcast. Comme tu le sais si bien, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de créateurs, plus il y a de liens. En attendant de boire un nouveau verre ensemble avec un nouveau créateur de liens. Je te donne rendez-vous le 5 dans ta boîte mail pour faire une pause café et découvrir une nouvelle inspiration. À très bientôt!